c'est l'heure du journal d'Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Les Occidentaux continuent d'étudier des ripostes militaires envisageables pour punir le régime d'Assad, accusé d'avoir perpétré l'attaque chimique de Douma. Hier, les États-Unis affirmaient pourtant qu'aucune décision n'avait été prise. Ce matin, Christophe Castaner, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, affirme seulement que si les conditions sont réunies pour qu'il y ait des frappes, eh bien, elles auront lieu. Analyse de ces déclarations avec Éric Biégala dans un instant. Sur le site de Notre-Dame-des-Landes, la phase d'expulsion est terminée, affirme la préfète de Loire-Atlantique. Selon qui, maintenant, toute occupation doit désormais s'inscrire dans un cadre légal. Explication de ses propos avec Véronique Rebérotte. Il y a encore une dizaine d'universités qui restent bloquées. Les forces de l'ordre interviennent hier soir pour évacuer des étudiants qui se trouvaient à l'intérieur de l'université de la Sorbonne. Un site aussi de l'université de Lyon 2 évacué ce matin. On va faire le point avec Mathilde Hérard. À la SNCF, c'est le début de la troisième séquence de grève de deux jours, avec un trafic qui s'annonce un peu moins perturbé que les précédents. Les syndicats maintiennent toutefois la pression. Commentaire d'Annabelle Grelier. On reviendra aussi sur l'élection de Fabrice Friss, magistrat de la Cour des comptes, ancien dirigeant de Publicis Consultant, à la tête de l'agence France Presse, où il succède à Emmanuel Hogg, en quête d'Antoine Marette, et puis l'invité de la séquence interview, l'historien Fabrice Dalméda, spécialiste de la propagande et de la manipulation. Dans la dernière partie de la Grande Table, Olivier Gesbert.
Les leçons du pouvoir. On lui a piqué le titre de son livre, François Hollande, paru cette semaine. On va effectivement faire un retour sur ce quinquennat Hollande, mais également sur cette première année d'exercice du pouvoir par Emmanuel Macron, avec nos invités, l'historien Nicolas Rousselier et le politiste Frédéric Savicky, qui seront avec nous dans la deuxième partie de la Grande Table.
Si les conditions sont réunies pour qu'il y ait des frappes, elles auront lieu. Voilà ce que disait ce matin le secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. Nous sommes près d'une semaine maintenant après l'usage présumé donc de ces armes chimiques par le régime syrien. Il y a toujours un certain flou qui règne sur la nature, l'ampleur d'éventuelles représailles occidentales. Donald Trump hier faisait un peu marche arrière. Il avait réuni son équipe de sécurité nationale. Il affirmait qu'aucune décision finalement n'avait encore été prise. Monsieur Trump poursuivait des discussions avec ses alliés, notamment Theresa May et Emmanuel Macron. Peut-être bientôt ou peut-être pas si tôt que ça, tweetait-il encore, deux jours après avoir annoncé par la même voix l'arrivée de ces fameux missiles. Christophe Castaner, patron de La République En Marche, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, justifiait ce matin sur BFM TV l'apparente incertitude entretenue sur la question.
Il y a des discussions internationales. Il a eu hier encore le président des États-Unis d'Amérique, parce qu'il faut des frappes coordonnées s'il doit y avoir des frappes. Si les conditions sont réunies pour qu'il y ait des frappes, elles auront lieu, mais on informera l'Assemblée nationale et le Sénat le moment venu, mais il est important que cela relève aussi du secret, parce que c'est la protection des intérêts de la France qui sont en jeu. Donc, et c'est aussi la protection des civils.
Voilà pourquoi on ne sait pas encore grand-chose. Christophe Castaner avec Apolline de Malherbe. Au même moment, sur Europe 1, c'était le chef de file des députés LR, Christian Jacob, qui demandait à l'Assemblée un débat sans vote et qui exhortait aussi l'exécutif à agir avec beaucoup de sang-froid.
Il y a un vrai risque d'embrasement mondial. Moi, ce que je souhaite, c'est que si une décision doit être prise, elle doit être prise avec beaucoup de sang-froid. Et je pense que ça justifierait qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale, un débat sans vote, bien entendu. Vous savez que c'est au titre de l'article 35 de notre Constitution. Il peut y avoir après l'intervention, mais on pourrait aussi avoir une communication du Premier ministre, un débat sans vote. En regardant quelles sont aussi les autres possibilités de pression ou de répression. Je pense qu'il faut, encore une fois, conserver beaucoup de sang-froid. Et on a vu, par le passé, on nous a déjà expliqué qu'à un certain moment, des armes avaient été découvertes. Ensuite, elles ne l'étaient pas. Vous vous souvenez de l'Irak. Je pense qu'on peut éclairer la représentation nationale sur ce sujet avant de prendre une décision.
Christian Jacob, donc, avec Patrick Cohen. Hier, Emmanuel Macron disait pourtant avoir des preuves de cette attaque, mais officiellement, on continue à parler d'attaque chimique présumée ou supposée. Point de vue d'Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, invité de France Info. Selon lui, si on vérifie les preuves, c'est qu'il n'y en a pas.
Je crois que, à l'inverse de ce qu'on attend, ça serait plutôt une escalade supplémentaire. Dans cette région du monde, on a quand même, on a le droit de ne pas avoir une mémoire de poisson rouge. Dans cette région du monde, toutes les attaques unilatérales, d'accord, ont plutôt aggravé les problèmes plutôt que les ont simplifiés. Donc je vous dis, la France doit permettre les accords de Genève, faire en sorte de faire que les Russes fassent pression sur les Syriens et les Iraniens, faire en sorte que l'OTAN fasse pression sur les Turcs, qui, je vous le rappelle, il y a encore peu de jours, bombardaient nos alliés kurdes, et avoir une politique. Ça paraît peut-être désespérant, c'est peut-être ce que vous voulez, mais moi je préfère la paix au risque d'un conflit mondial dans la région.
Monsieur Coquerel, avec Bruce Toussaint, à l'instant, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, affirme que l'attaque chimique présumée est mise en scène avec la participation de services spéciaux étrangers. Il affirme en avoir des preuves. Éric Biegala, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, des représailles, est-ce qu'elles se préparent? Selon quel rythme? Est-ce que le rythme est normal? Est-ce que tout se passe, disons, conformément à ce qui pourrait se passer dans cette situation? Ceux qui sont à l'œuvre entretiennent donc un flou apparemment peut-être stratégique, ou bien est-ce qu'il y a des complications?
Eh bien, tout dépend de la dimension de la riposte envisagée, et celle-ci n'est pas tout à fait arrêtée, semble-t-il. Alors, ce devrait être une opération de représailles, ça on le sait, donc sans véritable objectif stratégique. Il ne s'agit pas de réduire définitivement les capacités offensives du régime ou de ses alliés sur le terrain. Mais même une opération militaire de représailles simple, frapper par exemple la base d'où sont partis les hélicoptères qui ont bombardé à l'arme chimique la ville de Douma, en l'occurrence la base d'Al-Doumaïr, 30 km à l'est de Douma, ça représente déjà un certain volume de préparation. Quels sont les appareils qui seront engagés pour ce faire? Et à partir d'où? Par exemple, les avions occidentaux basés dans la région et qui assurent jusqu'à présent les missions contre l'État islamique pourraient-ils être mis à contribution? En théorie, oui, mais c'est pas si simple, car ils devraient alors tirer leurs armes à partir de l'espace aérien jordanien ou irakien vers des objectifs syriens, et il n'est absolument pas certain que Bagdad ou Amman autorisent une telle utilisation de leur espace aérien. Il faut donc négocier avec ces pays le contour de l'opération. Si les représailles envisagées sont plus larges, par exemple détruire plusieurs centres de commandement et de contrôle, des usines de fabrication de l'arme chimique et des aéroports à partir d'où ces armes sont employées, c'est-à-dire 7 ou 8 objectifs répartis un peu partout dans le pays, il faudra employer les missiles de croisière à longue portée et plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'entre eux. Et là, aujourd'hui, les Occidentaux n'ont tout simplement pas encore déployé sur la région les capacités pour ce faire. Le 10e groupe de frappe américain autour du porte-avions Harry Truman, constitué d'une douzaine de navires, dont un croiseur et plusieurs destroyers lance-missiles, a quitté sa base de Norfolk sur la côte est américaine ce mercredi. Elle ne sera à pied d'œuvre en Méditerranée orientale qu'en fin de semaine prochaine. Difficile donc d'imaginer une telle opération de représailles large avant cette date.
Éric Biegala, merci beaucoup. Des milliers d'habitants de Gaza rassemblés pour un troisième vendredi consécutif de manifestations le long de la frontière avec Israël. Et ce vendredi, les organisateurs appellent les manifestants à brûler des drapeaux israéliens et à hisser des drapeaux palestiniens. Les protestations pourraient prendre de l'ampleur en début d'après-midi à la fin de la prière hebdomadaire. L'actualité française avec d'abord le site de Notre-Dame-des-Landes où la phase d'expulsion est terminée. C'est ce qu'indiquait ce matin la préfète de Loire-Atlantique, Nicole Klein. Conférence de presse dans laquelle elle affirme que tout ce qui était évacuable a maintenant été évacué et que la violence n'est en aucun cas acceptable. Donc à présent, c'est une nouvelle phase qui s'ouvre, dit-elle. Toute occupation doit désormais s'inscrire dans un cadre légal. Comment se présente Véronique Rebérot cette nouvelle étape?
Alors on passe à une invitation effectivement par l'État à revenir à une phase de concertation et de rétablissement du dialogue. Donc ce sont les propos, vous l'avez dit ce matin, de la préfète de Loire-Atlantique, Nicole Klein, et ceux hier de Nicolas Hulot, comme si de rien n'était, après cette parenthèse d'affrontement et d'arrestation aussi ce matin. L'État propose à tous ceux qui ont vu leur caravane, leur cabane, leur ferme, le hangar détruit, de se réinstaller, mais cette fois dans un cadre légal. Ces derniers jours, d'ailleurs, les gendarmes mobiles, c'est intéressant, menaient une opération de déconstruction. C'était le terme avancé, moins brutal peut-être et définitif que démolition. Reconstruction donc après déconstruction. Une date est fixée donc par la préfète Nicole Klein. Les personnes ayant fait l'objet d'une expulsion, les habitants des 29 squats détruits sur les 97 donc évacués sur la ZAD, peuvent proposer un projet d'occupation légale et régulariser leur situation d'ici le 23 avril, c'est dans 10 jours. Et on revient au point de départ, dans les discussions entamées avec la préfecture le mois dernier, ne seront régularisés des projets agricoles au sens large, mais à condition d'une démarche individuelle. Or, ce qu'on appelle l'Assemblée des usages de la ZAD continue à défendre une gestion collective du territoire de Notre-Dame-des-Landes, façon Larzac, un projet de territoire que ceux qui ont sauvé la zone humide de Notre-Dame-des-Landes souhaitent piloter dans l'expérimentation, ce que leur refuse, et encore aujourd'hui, le gouvernement. Ces projets agricoles collectifs défendus sur la ZAD ont ces derniers jours été en partie d'ailleurs détruits par l'intervention des gendarmes mobiles, habitat et jardin. Est-ce de nature à faire entrer dans le rang des zadistes, encore plus nombreux qu'avant l'intervention des gendarmes sur la zone et qui appellent ce dimanche à une fête de réinstallation sur la ZAD? Et que fera l'État s'il ne régularise pas d'ici le 23 avril, dans 10 jours, donc leur situation? la concertation s'annonce difficile.
Pour créer une zone légale donc à défendre. Merci beaucoup Véronique Rebérotte. La ministre de l'Enseignement supérieur était ce matin sur France Culture. Elle a rappelé sa méthode. Frédéric Vidal affirme qu'il faut agir au cas par cas en fonction de la situation de chaque université. Il y en a encore une dizaine qui est occupée à l'heure qu'il est. Hier soir, les forces de l'ordre intervenaient pour évacuer les étudiants qui se trouvaient à l'intérieur de l'université de la Sorbonne. Et puis ce matin aussi, intervention sur le site de l'université de Lyon 2. Mathilde Erard, bonjour.
Bonjour.
Comment est-ce que ça évolue? Toujours difficile de dire de quelle est la tendance.
Fermeture administrative d'université, intervention des CRS. Les présidents tentent d'enrayer le mouvement et ils doivent prendre leurs responsabilités, affirme la ministre de l'Enseignement supérieur Frédéric Vidal sur notre antenne ce matin.
Ce sont les responsables des lieux qui estiment la dangerosité de ce qui est en train de se dérouler et qui donc, normalement, doivent exercer le devoir de police, doivent maintenir l'ordre public. Et lorsqu'ils ne se sentent plus en capacité de le faire, lorsqu'ils estiment qu'il peut y avoir des risques, eh bien, ils font appel aux forces de l'ordre. Je dois dire que ce qu'on a vu ces derniers temps, à savoir des assemblées générales qui pouvaient dégénérer à cause de petits groupes violents, dont une fois de plus, je ne suis pas complètement persuadée que ce soit des étudiants, n'incite pas à laisser les étudiants la nuit dans les amphithéâtres.
La principale préoccupation des présidents est la tenue des partiels dans quelques semaines. Et d'ailleurs, certains ont déjà commencé. Alors, dans les universités occupées, chacun sa méthode pour stopper le blocus. Hier, à la Sorbonne, le recteur de l'université a fait appel aux forces de l'ordre après 3 heures de négociations avec les étudiants. Les CRS ont délogé près de 200 étudiants de la Sorbonne. D'autres présidents d'université sont plus prudents. À Rennes 2, la faculté est bloquée jusqu'à lundi prochain. La direction a donc décidé de suspendre les cours. Nous sommes soumis au vote de l'AG, avoue le président Olivier David sur France Bleu Armorique hier matin. Paris 1 occupé depuis fin mars. Paris 1 est occupé depuis fin mars. La présidence a demandé donc une intervention policière, mais la préfecture a refusé d'agir hier soir. Des CRS postés à l'extérieur de Paris 1 ont quitté les lieux sous les huées de quelques 200 personnes. Les étudiants mobilisés contre la loi Vidal restent déterminés à bloquer leur faculté et les cours et à faire entendre leur voix dans les rues.
Mathilde Erard, merci beaucoup pour ce point de situation. Frédéric Savicky, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un des invités de la deuxième partie, dernière partie de la Grande Table, professeur à Paris 1, politologue. Comment ça évolue? Comment vous sentez le mouvement, vous, de votre point de vue à Paris 1?
Ah, moi, je pense que c'est très analogue avec ce qu'on a entendu tout à l'heure sur ce qui a été dit sur Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire qu'on va pas régler le problème de l'université uniquement en menaçant, en utilisant le bâton, ou en proposant des petites carottes. C'est-à-dire, comme l'a fait le ministre de l'Enseignement supérieur ce matin, en disant qu'au cas par cas, elle pourrait éventuellement débloquer quelques petits moyens. Ça fait plusieurs années, au moins depuis 2011-2012, que les moyens, les dotations aux universités sont stagnantes par rapport à la croissance très forte des effectifs dans l'enseignement supérieur et en particulier à l'université. Il y a un vrai problème structurel.
Donc là, c'est pas vraiment la réforme alors.
Bah si, parce que cette réforme, elle a un message qui est un message de sélection. Clairement, c'est-à-dire de dire au fond que tout le monde ne trouvera pas sa place dans l'enseignement supérieur à un moment où les effectifs étudiants augmentent et donc effectivement ça crée une inquiétude, une tension très très forte et c'est à ça qu'il faut répondre. Et pour l'instant, la réponse du président de la République comme de la ministre de l'Enseignement supérieur, deux discours de type différent. D'un côté, un discours de menace et de l'autre, un discours de gestionnaire, ne répondent pas du tout aux attentes de la communauté universitaire, étudiante comme enseignante-chercheur.
Et vous sentez un potentiel d'aggravation
Oui, parce que ce mécontentement n'est pas un mécontentement sporadique, n'est pas quelque chose qui est anecdotique. Bien sûr, tout le monde n'est pas dans la mobilisation de la même façon, mais il y a effectivement de façon larvée une très très grande inquiétude et un très grand mécontentement auquel on ne répond pas, ou les pouvoirs publics ne répondent pas en ce moment.
Frédéric Savicky, merci. On vous retrouve dans la dernière partie de la Grande Table avec Nicolas Rousselier. On passe maintenant à la situation à la SNCF. Nous sommes donc au début de la troisième séquence de grève de 2 jours, avec un trafic qui s'annonce un peu moins perturbé. En tout cas, il y aura un peu moins de grévistes. Les syndicats maintiennent toutefois la pression. Les 4 syndicats qui sont les plus représentatifs réclament depuis des semaines de vraies négociations sur ces réformes. Et ils ont tous critiqué l'intervention, les propos tenus hier par le chef de l'État à la télévision. Ce matin, toutefois, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, parle, salue des premières avancées derrière le discours de fermeté. Est-ce que les lignes pourraient-elles être en train de bouger, de se modifier, Annabelle Grelier?
Bon, les grandes lignes du projet de loi de la réforme, non, elles n'ont pas bougé. On reste sur la transformation de la SNCF en société nationale à capitaux publics, la disparition du statut des cheminots pour les nouveaux embauchés ou encore l'ouverture à la concurrence. Les députés ont achevé hier l'examen en première lecture du projet de loi. 82 amendements ont été adoptés, 45 en séance et 37 auparavant en commission. Sur la question de l'ouverture à la concurrence, il y a eu quelques avancées avec la prise en compte d'amendements portés par les cheminots de la CFDT, notamment sur la question du volontariat. Lorsqu'il y aura un opérateur autre que la SNCF, la possibilité de passer par cet opérateur pourra se faire par volontariat ou encore le fait d'avoir la portabilité des droits en changeant d'éventuel opérateur, donc le fameux sac à dos social. Mais cela reste tout de même de petits gestes de la part du gouvernement. Ce ne sera pas suffisant pour casser le front syndical. Et puis la CFDT n'a pas à elle seule la clé de sortie de crise. Ce n'est que le quatrième syndicat représentatif chez les cheminots. Mais avec la puissante CGT Cheminot, l'UNSA Ferroviaire et Sudrail, elle n'a pas perdu l'espoir d'amender la réforme. Il reste en effet de nombreux points à négocier pour les syndicats qui permettraient de sortir du conflit et au premier rang duquel la dette pour laquelle Emmanuel Macron n'a pas apporté hier beaucoup de précisions. Il y a un certain engagement sur le principe de sa reprise par l'État, mais à quelle hauteur, quelle échéance? Et puis, il y a la question des investissements. Les discussions entre les syndicats et l'exécutif se poursuivent. Il y aurait, pense-t-il, encore des marges de manœuvre avant le vote solennel mardi prochain.
Merci, Annabelle Grelier. N'oubliez pas votre sac à dos social. Après la nomination hier par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la directrice déléguée en charge des opérations et des finances du groupe, donc Sybille Veil, à la tête de Radio France, on évoque maintenant ce qui se passe à l'agence France Presse, puisque là aussi, il y a eu un nouveau PDG, donc qui a été élu, Fabrice Friis, qui est magistrat à la Cour des comptes, ancien dirigeant de Publicis Consultant et qui succède à Emmanuel Hogg. Antoine Marette, bonjour.
Bonjour.
D'abord, peut-être un mot sur le profil de Fabrice Friis et sur son projet pour l'AFP.
Alors le profil, c'est celui d'un ultra-diplômé normalien, énarque, ancien numéro 2 de la branche presse professionnelle de Vivendi Universal. Il devait affronter lors d'un troisième tour réglementaire le PDG sortant, Emmanuel Hogg, mais ce dernier a finalement claqué la porte avec fracas mercredi dernier, affirmant que son projet ne recueillait pas les soutiens nécessaires et indispensables de l'État. Et donc mécaniquement, se retrouvant seul en lice, c'est Fabrice Friis qui a été élu par défaut par le conseil d'administration. Et cela inquiète les salariés car, en présentant son projet devant le CA, il a affirmé vouloir ouvrir le dossier de capitalisation de l'AFP. La Société des journalistes craint une privatisation de l'agence. Fabrice Friis souhaite également développer la vidéo pour que l'image atteigne la moitié de l'activité d'ici 2022 contre 39% actuellement.
En quelques mois, il y a plusieurs responsables du secteur public, du secteur de l'information qui ont changé. Quelle est la stratégie globale de la part du gouvernement, s'il y en a une?
Alors, plusieurs responsables, quatre exactement. Le PDG de Radio France, Mathieu Gallet, désavoué par le gouvernement et remplacé hier par une énarque de la promotion d'Emmanuel Macron, Sybille Veil. La directrice de LCP Assemblée Nationale, Marie-Ève Malouin, battue à sa propre succession par Bertrand Delay, un proche du chef de l'État. La PDG de France Média Monde, Marie-Christine Saragosse, dont la réélection a été annulée pour un défaut de déclaration de patrimoine. Et donc, Emmanuel Hogg, qui renonce au dernier moment à se succéder à lui-même à la tête de l'AFP. Tous ces mouvements parmi les responsables du secteur public de l'information semblent faire écho à une phrase prononcée en décembre dernier par Emmanuel Macron devant les députés de la Commission des affaires culturelles. L'audiovisuel public, c'est une honte pour nos concitoyens, c'est une honte en termes de gouvernance, c'est une honte en ce que j'ai pu voir ces dernières années de l'attitude des dirigeants.
Merci beaucoup Antoine Marette pour décrypter cette situation. Notamment, nous sommes en compagnie de Fabrice Dalmeida. Bonjour.
Bonjour.
Historien, spécialiste aussi des systèmes de communication et de l'audiovisuel public. Comment vous analysez ce qui est en train de se produire? Il y a une vision stratégique, évidemment. Laquelle est-elle?
Il y a une vision stratégique, aussi, mais il y a surtout, je veux dire, de notre part, et c'est tout le problème, je trouve, en France, le sentiment du fameux cordon ombilical jamais coupé avec la présidence de la République. République. C'est-à-dire qu'en gros, depuis la 4ème République, depuis qu'on a mis en place notre d'abord radio-diffusion française, qui est devenue une radio-télévision française, qui est devenue une ORTF, qui ensuite a été éclatée, il y a toujours le sentiment que les présidents de la République, eh bien, jouent leur parti.
Mais là, c'est plutôt pour s'adapter à la situation, à un monde qui va de plus en plus vite, comme le disait M. Macron hier. Donc, il s'agit plutôt de s'adapter que véritablement de donner des consignes politiques.
Non, il y a deux logiques différentes, en fait. Il y a une logique qui est celle d'une candidature. Bon, moi, Emmanuel Hogue a un bon bilan. Ça a été un président qui a changé la convention collective, qui a réussi à faire avancer son entreprise. Bon, il décide de renoncer. Pour moi, c'est un peu une tristesse, d'autant plus que c'est quelqu'un que j'apprécie, qui avait fait un très beau travail à l'INA auparavant, donc qui avait une vraie spécialité dans le domaine.
Son remplaçant, donc, celui
qui... Alors, je ne le connais pas, mais c'est vrai, quand on regarde les parcours, ce n'est pas du tout le même parcours. C'est-à-dire c'est un homme qui vient plus, si j'ai bien compris, Havas, Vivendi, Publicis, donc plus de la logique communication que d'une logique strictement d'information, qui était celle dans laquelle s'insère Emmanuel Hogue. Donc, je comprends ça. Mais il y a une logique qui est économique, c'est possible, et puis après, il y a toujours cette logique de nomination de dirigeants que De Gaulle pratiquait, que Giscard pratiquait, que tout le monde a pratiqué, y compris Mitterrand. Et on a l'impression, c'est vrai à écouter Antoine Maret, qu'il y a une continuité. Et c'est cette continuité qui, moi, finit par me gêner.
Question d'Abdallah Kaledressi.
À tel point que vous avez écrit il y a quelques jours concernant le cordon ombilical qu'il fallait même revoir le mode de nomination des PDG de l'audiovisuel public parce qu'en l'état, il n'est pas satisfaisant. On est face à un véritable déficit de légitimité. Quel est le problème aujourd'hui, selon vous ?
Eh ben, c'est exactement illustré aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des gens de qualité. Les gens qui sont nommés, c'est des gens de qualité. J'ai rien contre eux. Et au contraire, je dirais même que historiquement, on a eu plutôt de bons dirigeants dans l'audiovisuel. Contrairement à ce qu'on peut penser. Quand on regarde les bilans des sortants, en général, soit ils ont bien été des bons gestionnaires, soit ils ont réussi à faire des bons programmes. Enfin, ils ont tous des aspects positifs. Donc, c'est pas ça ma question. Ma question, c'est vraiment pourquoi nous les regardons toujours avec le soupçon. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas mener leur politique, j'allais dire d'une manière à peu près, leur stratégie pour leur entreprise, pour leur groupe, parce que ce sont des entreprises publiques. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas les mener? Parce que nous les regardons toujours avec l'idée qu'ils n'agissent pas pour le bien public, mais qu'ils agissent pour des intérêts partisans.
Vous écrivez même qu'ils perdent leur légitimité en parlant des dirigeants de France Télévisions et de Radio France. C'est votre avis concernant la nomination hier de Sybille Veil, du coup, à la tête de Radio France? Non pas sur sa personne,
ça mais... Enfin, je suis désolé, c'est pas moi qui l'ai dit, mais ça vient d'être illustré par un des journalistes de cette rédaction qui replace cette nomination dans une série et qui donc tend à donner l'impression que c'est la présidence de la République. Or, c'est pas le président de la République qui l'a nommé. C'est l'instance de régulation, le CSA. Donc moi, la question que je pose, c'est pourquoi est-ce qu'on considère que le CSA n'est pas indépendant? Et évidemment, pourquoi est-ce qu'on considère que le CSA n'est pas indépendant? Parce que les membres du CSA sont des membres nommés par les grandes instances politiques du pays. Donc on a toujours le sentiment qu'il y a une continuité entre le pouvoir politique et l'instance qui nomme.
Et quand Emmanuel Macron était candidat à l'élection présidentielle, il avait lui proposé de faire nommer les PDG de l'audiovisuel public par les conseils d'administration. Voilà. Mais des conseils d'administration.
Alors,
plus
ça,
revus.
Voilà, ça c'est la chose qui m'a fait réagir. C'est que on va nommer des conseils d'administration, donc ça veut dire qu'on va modifier les conseils d'administration. Donc ça veut dire qu'on va nommer des gens dans les conseils d'administration. Donc ça va rien changer parce que à nouveau le soupçon sera là. C'est pour ça que je proposais presque comme une boutade, mais l'objectif c'était un peu de réveiller ce système-là, c'est qu'on fasse une élection au suffrage universel direct avec des gens qui doivent montrer qu'ils ont la qualité. Et à ce moment-là, la légitimité est différente parce que et on pourra plus avoir le même soupçon de jeu de petits réseaux, de courtisanerie, etc. Qui fait que à chaque fois on accuse ces gens qui ont des qualités d'être les pires propagandistes d'un nouveau régime.
Propagandiste, Fabrice Almeida. Ça renvoie à votre histoire mondiale de la propagande depuis le début du 20e siècle. Aujourd'hui, si on prend par exemple le cas de la France, bon, est-ce que vous diriez qu'il y a une propagande qui est à l'œuvre? Quels sont ces nouveaux moyens, ces nouvelles
méthodes? On a plusieurs propagandes à l'œuvre. On a plusieurs propagandes. Alors, propagande pour moi, c'est un usage stratégique de la communication. Donc il y a des propagandes plus ou moins, voilà, il y a des propagandes plus ou moins lourdes, suivant qu'on est dans un régime où il y a un monopole ou pas. Il n'y a pas de monopole en France. Il n'y a tellement pas de monopole que justement on a des propagandes étrangères qui se déploient sur notre territoire, que ce soit celle de Russia Today, celle de la Russie, que ce soit un certain nombre de fake news qui viennent de nations qui ont besoin à un moment ou à un autre de nous affaiblir. Donc c'est une réalité. Et puis ensuite, il y a un système d'information dans lequel on a de la complaisance parfois pour certains responsables. Et à l'inverse, on a des responsables qui considèrent qu'ils sont l'objet de campagnes, j'allais dire, de propagande médiatique. Là, je prends l'exemple de Jean-Luc Mélenchon, qui a le sentiment permanent que l'ensemble des médias est contre lui. Donc, on a ces logiques-là qui sont à l'œuvre. Mais moi, je les trouve à la limite. Enfin, ce qui me paraît étonnant, c'est qu'on les regarde avec beaucoup de sévérité, alors qu'on a des systèmes d'ingénierie politique beaucoup plus lourds. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en réalité, il y a un mélange, et c'est ce qui s'est passé pour l'élection américaine, il y a un mélange de renseignements et de fausses informations qui peut permettre de démolir une personnalité. Et ce système-là, on le voit en train de se mettre en place. Donc moi, ma question, c'est plus comment faire pour éviter qu'il s'implante en France, comment faire qu'éventuellement pour que la France garde son autonomie là-dessus, et c'est tout le débat qu'on a sur les fameuses fake news.
Alors, comment la France pourrait garder son autonomie? Par exemple, vous dites fake news, bon, prenons la Syrie, on nous dit qu'il y a des armes chimiques, après la Russie, à l'instant, Lavrov revient en disant, c'est une mise en scène avec l'aide d'un pays, on a la preuve, russophone, etc. Ouais, là, on va plus rien savoir finalement, au bout
là,
du compte.
C'est vrai qu'on
il va arriver un temps où on ne saura plus rien.
Mais là, c'est vrai que c'est l'histoire qui nous a conditionnés d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder ces événements-là en oubliant 1991 et 2003. 1991, rappelez-vous, c'est l'attaque de l'Irak pour la libération du Koweït. Et on se souvient que l'opération pour la libération du Koweït était partie d'une fausse information, en l'occurrence, l'idée que les forces irakiennes sortaient les bébés des couveuses et les écrasaient à coups de crosse dans une clinique. C'était une fausse information. 2003, on se souvient, nouvelle fake news, les armes de destruction massive de Saddam Hussein. Et puis quelques mois plus tard, trois ans plus tard, George Bush reconnaît qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Mais là, normalement, il y a des États qui sont un peu plus sérieux que d'autres. La France, en 2003, a été sérieuse. C'est-à-dire qu'elle a utilisé ses images satellites pour dire il y a ou il n'y a pas.
D'où l'importance des services publics.
Voilà, on a les moyens. Oui, non, mais d'où l'importance des services publics et d'où l'importance aussi des services de renseignement réformés en 1989 par Michel Rocard.
Merci beaucoup Fabrice Dalméda d'avoir accepté de venir commenter cette actualité avec nous. Un petit mot du temps, moins de pluie qu'hier, sauf sur le Languedoc-Roussillon. Du Languedoc-Roussillon aux Cévennes, il y aura des éclaircies qui vont se développer, notamment sur la moitié est du pays. Température 9 à 19 degrés, édition réalisée avec Yacine Bouzard. À 17h, ce sera le magazine Passeurs malgré eux, des plages de Libye aux prisons de Sicile, avec des reportages de Raphaël Kraft, réalisés par Annie Brault, présentés par Aurélie Kiffer. Prochain journal, 18h, Benoît Bouscarel.